l'encontre de Vénézuéliens qui y ont trouvé refuge après avoir fui leur pays. Ils étaient plusieurs milliers jusqu'en 2017, mais le président Nicolas Maduro a ensuite qualifié le Sahara occidental de territoire occupé, déclenchant l'ire de Rabat qui a rétabli les visas obligatoires. Alors certains de ces Vénézuéliens ont dû partir, d'autres sont restés condamnés à vivre sans papier. On sera à Casablanca et Marrakech. Mais d'abord, premier trophée de l'année footballistique en France ce dimanche, le trophée des champions qui oppose traditionnellement le champion de France en titre de Ligue 1 au dernier vainqueur de la Coupe de France. Dans les deux cas, c'est le PSG qui s'est imposé, il lui fallait bien un adversaire, ce sera Monaco, deuxième à la fin du dernier championnat. Le coup d'envoi de ce match à 16h30 temps universel, mais ce ne sera ni en terre parisienne ni en terre monégasque, mais à Doha au Qatar. Un match reporté à plusieurs reprises et délocalisé donc dans l'Émirat qui, une fois de plus, Cédric de Oliveira, prouve son influence sur le football hexagonal.
Esa es nuestra sensación. Jugar en casa.
On a la sensation de jouer à la maison, Luis Enrique ne s'en cache pas. Pour l'entraîneur du PSG, détenu par QSI, actionnaire qatarien, ce trophée des champions aura lieu presque à domicile. Et si les supporters des deux clubs ne feront pas le déplacement de 5000 km, pour Christophe Lepetit, économiste du sport, Doha était la solution la plus évidente à court terme.
Ce qui a orienté le choix vers Doha, c'est probablement qu'il y a eu une offre financière du Qatar qui était supérieure, sans compter les sujets organisationnels. Le Qatar, depuis 10 ou 15 ans désormais, organise très régulièrement ce type d'événement. Donc c'est des choses qui sont très rodées côté qatari.
Prévu au départ en août en Chine, l'événement pensé comme une vitrine du foot français à l'étranger a été reporté plusieurs fois. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire étaient intéressés. Et pour Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, ils auraient offert une autre exposition.
Si on réfléchit en termes de développement du produit Ligue 1, évidemment, il fallait pas aller au Qatar. Vous êtes sur un petit marché. Si on voulait internationaliser, il fallait aller ailleurs. Il y avait l'hypothèse asiatique plus large qui était sur la table, mais surtout une hypothèse ivoirienne avec un vrai financement. Et puis très rapidement, le Qatar a surenchéri. Pour le football français, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies.
Pour rafler la mise, le Qatar aurait mis 3 millions d'euros sur la table. Suffisant pour s'inscrire dans une logique que l'Émirat suit depuis plus de 15 ans, selon Christophe Lepetit.
Le Qatar, comme d'autres pays, instrumentalise le sport à des fins de soft power et à des fins géopolitiques. Donc il ne faut pas s'étonner de voir le trophée des champions français avoir lieu dans ce type de pays, ça fait partie de leur stratégie.
Alors que le foot français se serre la ceinture après des droits télé revus à la baisse, les liens entre le Qatar et la LFP n'ont jamais semblé aussi forts et font craindre un conflit d'intérêts. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, est notamment au conseil d'administration de la LFP et dirigeant de Bein Sport, l'un des diffuseurs de la Ligue 1. Pour Jean-Baptiste Guégan, c'est le signe que Doha a l'ascendant.
Alors aujourd'hui, le Qatar exerce un rapport de force. Avant, il était une solution, aujourd'hui, il peut être un problème. Il fait valoir ses intérêts là où avant, ses intérêts servaient le football français. Donc la Ligue 1 n'est pas un atout pour lui, c'est finalement une sorte d'élément de son fonds de commerce. Et on peut se dire que aujourd'hui, ils sont plus à essayer de maintenir une position qu'autre chose, sachant qu'elle est clairement acquise dans le cadre du football français. Et c'est ce que nous dit aussi le fait que le trophée des champions se déroule à Doha.
À l'avenir, le Qatar devrait tenter de poursuivre sa stratégie de soft power avec d'autres compétitions. Le pays redoute de se faire distancer par son voisin, l'Arabie Saoudite, qui organisera notamment la Coupe du Monde de football en 2034.
Cédric de Oliveira. En attendant, le trophée des champions PSG Monaco, ce sera ce dimanche à partir de 16h30, temps universel. Et comme chaque dimanche sur RFI, c'est l'heure de découvrir les têtes d'affiche de Denise Epoté. Elle est avec Alexis Guilleux.
C'est l'heure des têtes d'affiche. Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Alexis Guilleux.
Pour vos premières têtes d'affiche de l'année, Denise Epoté, vous avez retenu deux innovateurs originaires de l'île Maurice et du Cameroun. Alors d'abord, diplômé d'ingénierie télécom de l'IMT, Ashley Gozer a conçu Hub2, une plateforme pour l'interconnexion des paiements dans 6 pays.
Pour résoudre l'absence d'interopérabilité entre les systèmes de paiement existants, mobile money, carte bancaire, transfert bancaire et crypto-monnaie quand elle existe, il manquait une plateforme. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, Ashley Gozer a mis au point Hub2 pour Hub to Africa, une API unique destinée aux entreprises désireuses de conquérir le marché africain. Parmi ses clients, il compte des néobanques, des sociétés de microfinance, des prestataires de services de paiement et de transferts internationaux, basé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso et au Togo, qui affichent tous un taux de satisfaction de 98%. À l'horizon 2027, Hub 2 sera présente à Madagascar et au Sénégal et couvrira ainsi toute l'Afrique francophone. Début décembre, lors de la première édition des Ivoire Innovation Awards, organisée par le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation en Côte d'Ivoire, la start-up a été élue meilleure start-up de l'année.
Deuxième tête d'affiche, Denise Epoté, la Camerounaise Ameline Gonanga, qui a mis au point une gamme de produits cosmétiques et de compléments alimentaires destinés aux personnes atteintes d'albinisme.
Née d'une mère atteinte d'albinisme, c'est pour elle qu'Ameline Gonanga décide de devenir esthéticienne, cosméticienne, afin de trouver des solutions pour protéger sa peau sensible aux effets néfastes des rayons du soleil. Après des années de recherche, avec le concours de grands laboratoires, elle met au point une gamme de produits à base de glutathion, surnommé le roi des antioxydants. Bon pour la peau, mais également pour l'organisme, grâce à ses propriétés qui renforcent le système immunitaire et protègent contre le vieillissement prématuré. La chef d'entreprise conçoit des produits adaptés aux peaux hypersensibles, une alternative aux produits blanchissants ou abrasifs vendus sur le marché. Produits en France, les soins photoprotecteurs au glutathion qui font barrage aux radicaux libres et les gommages à base d'actifs naturels marins sont distribués dans 21 pays en Afrique, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Ameline Gonanga a fait de la cause des personnes atteintes d'albinisme un combat qui l'amène aux quatre coins du continent pour tenir des conférences et venir en aide à des associations. Pour elle, l'albinisme est une condition qui nécessite une attention particulière, non seulement pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes concernées, mais aussi pour promouvoir une compréhension et une acceptation plus large par la société. Le 8 novembre, au Sénat à Paris, Ameline Gonanga a reçu le GIFA d'or dans la catégorie « Entreprise innovante ». Le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun vient de lui décerner le prix de la meilleure marque de Nutri-Cosmétique.
Merci Denise Epoté et à la semaine prochaine.
Et merci à vous Alexis Guilleux, 7h51 à Paris, les titres de ce dimanche 5 janvier.
RFI, toute l'actualité, Gaëtan Plenet.
24 heures après le Hamas, Israël confirme à son tour une reprise des négociations au Qatar. Négociations indirectes entre l'État hébreu et le mouvement palestinien Hamas. Le Hamas qui exige avant toute chose une cessation immédiate des frappes dans la bande de Gaza et un retrait des troupes israéliennes déployées dans l'enclave. Israël, de son côté, met l'accent sur la libération des otages. Le président américain Joe Biden doit s'entretenir aujourd'hui avec celui qui affirme être son désormais homologue vénézuélien, Edmundo González Urrutia. L'opposant clame toujours sa victoire à la dernière présidentielle face à Nicolas Maduro. Et ces derniers jours, Urrutia a rencontré plusieurs dirigeants des pays d'Amérique du Sud. Marine Le Pen attendue à Mayotte. La chef de file des députés du Rassemblement National va rester deux jours à la rencontre des sinistrés du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel français de l'océan Indien. Elle y est quasiment en terrain conquis. Son parti a été largement plébiscité lors des dernières élections, à la fois présidentielles et législatives. Effondrement de l'économie, dysfonctionnement politique, démocratie démocratique aussi. Autant de facteurs qui ont poussé plus d'un quart de la population du Venezuela à quitter leur pays depuis 10 ans maintenant. Et depuis 2013, l'élection de Nicolas Maduro, réélu il y a quelques mois, même si c'est contesté par l'opposition, eh bien 5 millions de Vénézuéliens ont migré, en grande majorité dans les pays voisins, comme la Colombie, les États-Unis aussi, en Europe également, mais ils sont quelques milliers à avoir trouvé refuge en Afrique. C'est le cas au Maroc, où la communauté compterait un millier de personnes, dont une part importante d'artistes, qui ont trouvé des emplois comme professeurs de danse, chanteurs dans les bars ou musiciens dans les grands hôtels du pays. Reportage à Casablanca et Marrakech de François Imfer Kataji.
Béatrice vient tout juste de terminer sa prestation dans une ambiance de fête. Trois fois par semaine à Casablanca, elle se produit dans différents bars de la capitale économique, alternant entre des tubes pop et des chansons vénézuéliennes. Elle est arrivée en 2013, à une époque où les artistes sud-américains pouvaient entrer au Maroc sans visa, grâce à une politique de coopération économique et culturelle entre le Royaume et les pays d'Amérique du Sud.
Les Marocains adorent la musique latine. C'était très joli le projet d'amener des musiciens latinos de la Colombie, vénézuéliens et chiliens.
Partie pour un contrat d'un an au Maroc, elle y est finalement sont restés pendant plus de 10 ans jusqu'à aujourd'hui.
C'est un pays que je ne connais pas, la culture, et j'adore toutes les choses que je ne connais pas pour découvrir la gastronomie et comme ça. Et le Maroc, c'est un pays avec une sécurité exceptionnelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on a resté beaucoup de temps ici, à différence du Venezuela, par exemple, actuellement.
Environ 2000 Vénézuéliens auraient ainsi migré au Maroc, mais à partir de 2017, les tensions se sont considérablement accrues entre Rabat et Caracas, après que Nicolas Maduro a qualifié le Sahara occidental de territoire occupé. Les visas ont été rétablis, la moitié des Vénézuéliens résidant au Maroc ont quitté le pays, les autres sont restés condamnés à vivre sans papier, comme Béatrice.
La majorité des Vénézuéliens sont partis, ont quitté le Maroc pour ça, parce que c'est insupportable d'habiter dans un pays sans papier. Il y a des familles, des enfants qui sont nés ici. Et finalement, c'est complexe la situation de Vénézuéliens ici. On a resté comme en prison.
Jorge est vénézuélien, musicien, batteur dans l'un des hôtels les plus luxueux de Marrakech. Il réside au Maroc depuis 2013. Bien qu'il soit très attaché au Maroc, il se retrouve aussi dans l'illégalité. Mais il s'accroche à l'espoir que Nicolas Maduro soit chassé du pouvoir prochainement pour que sa situation administrative s'améliore.
Vraiment, le problème, c'est Maduro. Vraiment. C'est difficile que le roi change avec Maduro. Donc on attend le prochain 10 janvier, c'est la limite pour Maduro laisser la présidence.
Le 10 janvier prochain, date programmée de l'investiture de Nicolas Maduro, l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia promet de reprendre le pouvoir. François Imperkataji, Casablanca, RFI.
González Urrutia qui a annoncé hier qu'il rencontrerait, je le disais, le président américain Joe Biden ce dimanche aux États-Unis. Le journal dans 5 minutes sur RFI. Mais d'abord, 100% Création qui poursuit ce matin sa série à la rencontre des compagnons, artisans d'art ou designers qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Ce dimanche, c'est Marie Pavan Andaloro qui nous raconte son métier, restauratrice de peinture murale. Elle est la mandataire d'un regroupement de 15 personnes en charge de la restauration des peintures murales de Trois-Chapelles et elle se confie au micro de Maria Afonso.
Dans mon parcours professionnel, c'est un chantier extraordinaire, à tout point de vue. On peut dire que ça m'a pris 2 ans et demi pratiquement de temps plein.
Marie Parent Andaloro, restauratrice de peinture murale.
Beaucoup d'investissements, surtout quand on a beaucoup de chapelles à faire et une grosse équipe à gérer. Moi, j'étais très heureuse. Voilà. Pendant 2 ans et demi, ça a été un grand plaisir.
Marie Parent Andaloro est une experte aguerrie dans le domaine de la conservation du patrimoine. Originaire de Toulouse, elle a suivi des études aux Beaux-Arts avant de se spécialiser dans la restauration. Elle commence sa carrière dans la peinture de chevalet avant de s'orienter dans la restauration de peinture murale. Depuis plus de 20 ans, Marie Parent Andaloro travaille principalement dans des églises et d'autres sites historiques. Son parcours atypique mêle art et technique. Pour la restauration des peintures murales de Notre-Dame de Paris, Marie Parent Andaloro et son équipe ont participé au chantier test. Chaque projet de restauration présente des défis et apporte aussi des bonheurs.
Alors la première, quand même, très belle surprise, c'est l'homogénéité de l'ensemble. C'est-à-dire, quels que soient les lots, le rendu est exactement pareil. Donc ça, c'était vraiment le gros challenge du départ, parce que quand il y a 3 lots et des entreprises différentes, il faut qu'il y ait quand même la même main, le même résultat, le même rendu. Donc ça, ça a été fait grâce au protocole qui est établi en amont. Donc tout le monde a utilisé le même protocole. Alors l'architecte était là pour surveiller ça, même entre nous. Des fois, quand on avait des soucis, on partageait les soucis. Et puis le contraste entre les peintures murales de toutes les chapelles du déambulatoire et la couleur de la pierre, alors là, vraiment, ça a été une révélation. Pour moi, c'est vraiment l'instant Viollet-le-Duc.
Pendant la restauration de la cathédrale, Marie Parent Andaloro a tissé des liens avec d'autres artisans. Pour la restauratrice, les relations humaines ont été très importantes sur ce chantier.
Le grand plus de ce chantier, honnêtement, ça a été la coactivité et les rencontres humaines. Généralement, quand on fait un chantier de peinture murale, on arrive, l'électricité est posée, l'eau est posée, l'échafaudage est monté. Là, au quotidien, on a travaillé vraiment avec les échafaudeurs, avec les plombiers, avec les électriciens, avec ceux qui s'occupaient de l'eau, même les restaurateurs de vitraux, les restaurateurs de sculptures, ceux qui s'occupaient des parements, parce qu'on les côtoyait vraiment au quotidien. Donc humainement, c'était que des belles rencontres.
Retrouvez l'univers de Marie Parent Andaloro sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
100% création sur RFI à la rencontre de ces petites mains qui ont rebâti la grande cathédrale. On a aussi rencontré un facteur d'orgue, un maître artisan lustrier, un campaniste également. Autant de reportages que vous pouvez réécouter sur notre site RFI.fr et sur notre application Pure Radio également. Bientôt 8h dans un petit peu plus d'une minute avec le journal d'Alban Le Prince. Restez avec nous à l'écoute de la Radio du Monde.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, je vous invite à une déambulation en chanson de l'Ouganda à la Turquie en passant par les États-Unis et la Nouvelle-Orléans qui s'apprête à vivre des semaines de bombances, de défilés, de concerts et d'extravagances. En un mot, le carnaval.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.
Géopolitique.
La criminalité transnationale organisée englobe pratiquement toutes les activités criminelles graves motivées par le profit. Trafic de drogue, d'armes, traite d'êtres humains, blanchiment d'argent et bien d'autres fléaux. Comment mettre hors jeu ce phénomène ? Que faire contre la criminalité organisée ? Réponse avec des spécialistes en partenariat avec la revue Questions internationales.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.